Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris, pour ceux qui sont dans la salle et pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir David Elbaz, que je vais présenter dans un instant. Je vais d'abord vous dire quelles sont les prochaines conférences pour vous donner envie de revenir si vous n'êtes jamais venu et de continuer à venir si vous venez régulièrement. Donc le 3 janvier, mardi 3 janvier, nous aurons Irina Dvorkin qui travaille à l'IAP, qui va surfer sur l'espace-temps, les ondes gravitationnelles de la théorie aux découvertes. Ensuite, le 7 février, nous aurons Antonella Barucci, l'exploration des petits corps du système solaire à la recherche des origines des planètes et de la vie sur Terre. Donc c'est complètement différent. Et le 7 mars, nous aurons David Valsgabo, une histoire des mirages gravitationnels. Donc vous voyez, des programmes très variés. Je ne vous donne pas les suivants, mais voilà, ce sera jusqu'en juin. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir David Elbaz, qui a fait sa thèse au CEA sur les amas de galaxies en rayons X. Ensuite, il a obtenu un poste au CEA pour travailler sur les galaxies en infrarouge, cette fois à partir de données du satellite ISO. Et puis, il est parti aux États-Unis, à l'Université de Californie à Santa Cruz, pendant 2 ans, pour travailler sur les données Spitzer, qui était aussi un satellite d'observation infrarouge, hein, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises. Ensuite, il est revenu, il a été directeur du laboratoire de cosmologie et d'évolution des galaxies, j'écris mal, puis directeur scientifique du département d'astrophysique, et directeur, il est toujours directeur du département d'astrophysique, et directeur aussi de rédaction de la revue Astronomie Astrophysics, où la plupart des astronomes européens, et en particulier français, publient. Il écrit aussi des livres, il en a écrit 5, 2 romans d'abord, l'un qui se passe en Chine et l'autre qui se passe en Égypte ancienne, et puis plus récemment une trilogie avec un livre sur les composantes sombres de l'univers, un autre sur la lumière et un troisième sur la danse du cosmos. Donc aujourd'hui, il va nous parler de l'histoire de l'univers racontée par la lumière et nous le remercions d'être là.
Voilà, bonsoir. Et avant de commencer, j'ai vu qu'il y avait un objet intéressant ici, il y a un éléphant. Et donc je considère que le défi, c'est que j'arrive à parler de l'univers et que la clé pour comprendre l'univers soit l'objet mystère, un éléphant. On va essayer. Ce n'était pas prévu. Et donc vous avez entendu parler des dernières observations du télescope spatial James Webb, le lundi 11 juillet 2022, Joe Biden a présenté la première image de l'univers très lointain du satellite James Webb. C'est un peu comme l'extension de la conquête de la Lune, un président américain qui présente le succès d'une à la fois technologique puis d'une civilisation quelque part. Il a dit voilà, c'est la culture américaine qui a réussi à aller plus loin que tout le monde. Cette fois, ce n'est pas sur la Lune, c'est dans l'univers. Il se trouve que James Webb, ce n'est pas le nom d'un scientifique, c'était le nom de l'administrateur général de la NASA dans les années 60. Et Kennedy lui avait demandé justement d'aller sur la Lune. Et à ce moment-là, James Webb avait dit à Kennedy, mais en fait, les Russes sont vraiment en avance sur nous, ils ont la plus grosse fusée, ils sont vraiment en avance sur nous, je ne vais pas pouvoir les convaincre si je ne leur dis pas qu'ils vont aussi pouvoir faire de la recherche scientifique, qu'ils vont pouvoir faire avancer la science. Et donc, le dialogue a été enregistré, c'est assez intéressant à écouter, parce que c'est un dialogue qui tourne en rond, où Kennedy lui dit, mais j'ai compris, mais moi ce que je veux, c'est aller sur la Lune avant les Russes. Et l'autre lui dit, oui, mais moi je vous dis qu'on ne peut pas y arriver si on ne convainc pas les scientifiques, mais il n'a pas compris. Donc Kennedy dit, mais vous savez, ces histoires de recherche, trouver des solutions pour le cancer et tout ça, c'est super, mais là, moi, je veux d'abord aller sur la Lune avant les Russes. Et là, James Webb lui dit, oui, mais on n'y arrivera que si on convainc les scientifiques. Et puis donc Kennedy lui dit, bon écoutez, écrivez-moi ça sur une feuille. Il s'en va, et puis il y a le conseiller qui est à côté, qui dit à James Webb, mais tu ne vas pas lui dire que tu as déjà commencé à utiliser l'argent pour faire de la science? Non, non, mais ça, il n'y a pas besoin de savoir. Donc en fait, le James Webb, en fait, c'est pas du tout un scientifique, c'est juste quelqu'un qui a su utiliser une partie de la guerre froide pour faire de la science. Et c'est pas un hasard si lorsque Emmanuel Macron est arrivé mercredi 30 novembre aux États-Unis, premier invité étranger par Joe Biden de manière officielle, il s'est retrouvé avec Kamala Harris devant cette image d'une galaxie en interaction qui a été réalisée par un ami, Lee Armus, qui, on a eu des échanges d'emails le soir même, il m'a demandé s'il y avait un bon hôtel près de l'Elysée pour savoir s'il pouvait revenir avec Macron. Donc ça y est, il pensait qu'il était devenu vice-président. Et, alors ce qui est un peu étrange, c'est que dans ces deux images, ils ne savent pas qu'ils sont confrontés à des choses qui sont catastrophiques, en fait, que l'univers, on pense toujours que c'est quelque chose de stable. Macron est devant ce qu'on appelle du cannibalisme galactique, et, tandis que Biden est devant du harcèlement galactique. C'est un article de 1996 publié dans le journal Nature par quelqu'un qui s'appelle Moore, toute la lumière diffuse qui est là, c'est extraordinaire, c'est des étoiles qui ont été complètement arrachées des galaxies, et on a même mesuré l'âge de ces étoiles, on sait l'heure du crime, c'était il y a 5 milliards d'années, et une galaxie a été complètement déchiquetée. Et donc, en fait, les gens sont fiers de voir cette image-là parce qu'ils se disent, regardez, on remonte aux prémices de l'histoire de l'univers. Et en fait, c'est un cadavre. Alors, il s'est passé beaucoup de choses au cours des dernières années. Il y a eu des découvertes qui ont été réalisées à un rythme plus rapide que tout ce qu'on a jamais vécu. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'insister sur cette formulation, l'histoire de l'univers racontée par la lumière? Parce qu'en fait, je pense que vous pouvez être étonné de ce titre, vous devez vous demander, mais en fait, ça fait longtemps qu'on regarde l'univers avec des télescopes, qu'on connaît la lumière, on sait ce qu'elle fait, on sait que grâce à la lumière, si elle est décalée vers le rouge, c'est que c'est une source qui est très lointaine, puisque l'univers est en expansion, qu'en décodant le langage de la lumière, on est capable de reconnaître du carbone, de l'oxygène, du néon, des tas d'atomes dans les étoiles et dans le gaz des galaxies. Donc on sait qu'il y a eu d'autres générations d'étoiles, on est capable de peser les galaxies, de mesurer leur âge, on connaît tout ça. En fait, pourquoi il y a un astrophysicien qui vient nous dire que l'histoire de l'univers est racontée par la lumière? En fait, ce que je vais essayer de vous dire, c'est que la lumière n'est pas seulement l'outil grâce auquel on remonte l'histoire de l'univers, mais elle est aussi sculptrice des formes de l'univers, et que sans elle, nous ne serions pas là, et que c'est elle qui va jouer le rôle fondamental pour sculpter l'univers. Et donc je vais m'appuyer sur deux bouquins, justement, que j'ai écrits, et je vais essayer de vous raconter deux éléments clés. Aujourd'hui, je vais essayer de vous transmettre deux idées qui sont liées à ces deux livres. Donc la première idée, c'est celle de ce bouquin qui est sorti il y a un an, qui est que, justement, la lumière est la sculptrice des formes de l'univers, et que la gravité, si elle était seule, elle serait incapable de faire une galaxie, une étoile, une planète, la vie ou quoi que ce soit. En réalité, la gravité peut faire des formes universelles, mais ne peut pas faire des formes singulières, des formes complexes. Ça, c'est la première idée. Donc, en gros, vous pourrez dormir une fois que j'aurai dit ces deux idées, parce qu'après, je vais juste expliquer ça. Et la deuxième idée, c'est que y a un changement de paradigme qui vient de se produire dans notre compréhension de la formation des galaxies dans l'univers, qui met en jeu tout un tas de composantes invisibles qu'on appelle les baryons noirs, c'est-à-dire les atomes classiques qui ne sont pas visibles, et qui participent à l'origine des formes des galaxies. Et une découverte qui s'est confortée, qui a été confortée par les dernières images du télescope James Webb, les articles qui sont en train de sortir en ce moment sont en train de conforter cette idée-là, que je résume de façon un peu sommaire, nous ne serions pas là si les galaxies ne dansaient pas. Bon, voilà, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, avant de rentrer dans cette explication-là, je voudrais rappeler une chose, c'est que Edgar Poe a eu des intuitions complètement géniales. En 1845, il a voulu démontrer cette idée qu'il y a des vérités qui, bien que scientifiques et rationnelles, dépassent complètement les plus folles histoires imaginaires. Et il l'a fait dans un tout petit livre qu'il a écrit en 1845, qui s'appelle « Le 1002e conte de Scheherazade ». Dans ce livre, il se demande si Scheherazade vivait à l'époque contemporaine, 1845, quelle histoire elle raconterait au prince, au roi de Perse. Et dans le livre, elle lui dit au roi de Perse, il y a quelque chose qui est encore plus extraordinaire que de voler sur un tapis volant, qu'une lampe magique qu'on frotte et dont sort un génie, que de dire « Sésame, ouvre-toi » et il y a une grotte qui s'ouvre, ou les fameux djinns dans les histoires des mille et une nuits, c'est le fait que n'importe quel être ordinaire, qu'il soit un chien, un chat, un homme ou une femme, dès lors qu'il regarde le ciel, voit des millions d'années dans le passé et peut même voir des choses qui n'existent plus depuis des millions d'années. Edgar Poe imagine, donc comprend que l'univers, on le voit dans le passé, et trois ans plus tard, en 1848, il écrit Eureka ou un poème en prose, où il a l'intuition géniale que s'il fait nuit la nuit, c'est parce que l'univers a un commencement. Sinon, on verrait de la lumière qui vient de toutes les régions du ciel si l'univers était éternel et infini. Or, il y a des points où on ne voit pas de lumière d'étoiles, et donc ça veut dire que la lumière n'a pas eu le temps de nous arriver. En tout cas, c'est son explication de la nuit noire qui est la première explication scientifique pertinente de l'origine de la nuit noire. Et pourquoi j'insiste sur ça ? Pas uniquement parce qu'il a eu une idée géniale, mais parce qu'il y a une étrange coïncidence, c'est qu'il a écrit ça. Alors, cette nuit noire, il en a parlé juste avant de mourir, c'était son dernier livre, et il a écrit ça, donc, 1845-1848, à Baltimore, dans la ville de Baltimore. Or, dans la même ville de Baltimore, en 1995, au centre du télescope spatial Hubble, c'est-à-dire ce satellite dont l'objectif c'est de remonter à l'origine des lumières les plus lointaines aux confins de l'univers, Bob Williams, le directeur du télescope spatial, du centre du télescope spatial, fait appel en décembre 1995 aux 7 plus grands compteurs d'univers, des plus grands scientifiques, enfin parmi les plus grands scientifiques qui étudient les galaxies les plus lointaines pour remonter à l'origine des formes dans l'univers, des galaxies dans l'univers, une femme et 6 hommes, et il leur pose la question suivante. Il leur dit, voilà, j'ai envie d'utiliser tout le temps qui m'est dédié en tant que directeur pour faire une image qui va changer complètement notre compréhension de l'univers. Et donc, ils s'adressent à eux, et ils viennent tous avec des idées géniales, et effectivement, comme ils sont 7, ça fait au moins 7 idées géniales, voire plus, et ils ne convergent pas. Et donc là, il dit, Bob Williams, j'espérais qu'un consensus émergerait, mais en fait, il n'y a rien qui est sorti. Mais c'est dans les couloirs de son institut, il a croisé quelqu'un qui s'appelle Mark Dickinson, qui lui a dit, ben moi, si j'avais accès à tout ce temps-là, je pointerais un trou dans le ciel où il n'y a rien du tout, et je laisserais le télescope pointer pendant des heures, des heures et des heures. Parce qu'on vient de découvrir une technique extraordinaire, c'est qu'en utilisant les couleurs de la lumière, même en faisant juste des images, on peut directement mesurer leur décalage vers le rouge, leur distance, parce qu'il se trouve que dans la lumière d'une galaxie, il y a une marge d'escalier, et qu'on peut reconnaître la position de cette marge d'escalier rien qu'avec des images. Et donc, en une photo, on peut mesurer la distance de milliers de galaxies d'un coup. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut transformer une image en un film, puisque les distances des galaxies correspondent à des époques reculées dans le passé. Là, Bob Williams dit « ça, c'est génial ». On va faire deux choses. Un, on va faire cette image-là. Et deux, on va la rendre publique immédiatement. Et c'est la première fois qu'un programme avec 100 heures d'observation du plus puissant télescope est mis en accès public immédiat. Et ça a été une véritable révolution, tant scientifique que sur le concept même de donner des images publiques. Et bien entendu, ça ne pouvait pas être fait un autre jour que le 25 décembre 1995, le jour de Noël. C'est une drôle de coïncidence, mais ça a été observé 5 jours avant, 5 jours après, le jour de Noël 1995. Et pour ceux qui ont suivi le lancement du James Webb, il a été lancé le jour de Noël, le 25 décembre 2021. Et dans les deux cas, c'est vraiment le hasard du calendrier. Tout le monde essaie de le faire avant pour le James Webb, ça n'a pas été possible. Et quand j'ai discuté récemment avec l'astronaute Jean-François Clairvoy, il m'a dit qu'en 1999, vous savez que pour repérer une position dans le ciel, un satellite a besoin de gyroscope, parce qu'il n'y a pas de haut, de bas, l'univers est insensé. Et donc, on a besoin de gyroscope pour se repérer, et il en faut 3 pour repérer une position dans le ciel. Hubble avait 6 gyroscopes, et en 99, il y en a 4 qui ne fonctionnaient plus. Donc ils ont envoyé la navette Discovery pour réparer le satellite, et... Donc ils ont changé les 6 gyroscopes et Clairvoy était aux commandes du bras mécanique qui tenait le satellite et il a relâché le satellite pour qu'il reparte faire ses observations. C'était le 25 décembre 1999. Donc ça, c'est assez rigolo parce que c'est une étrange coïncidence. À chaque fois, c'était le jour de Noël. Et effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, on vit un véritable siècle d'or pour l'astrophysique avec des découvertes qui se multiplient à un rythme incroyable. On a vu l'image de l'ombre d'un trou noir. On a vu les germes des structures de l'univers. On a vu, par exemple, avec ALMA, naître une protoplanète à 150 millions de kilomètres de sa proto-étoile, c'est-à-dire exactement la naissance d'un système solaire en direct auquel on assiste. On connaît plus de 5200 exoplanètes, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. On a vu de l'eau dans l'atmosphère de ces exoplanètes. On a reçu des ondes gravitationnelles qui ont permis de détecter des trous noirs de 30 fois la masse du Soleil dont on ne savait même pas qu'ils existaient. Enfin, jamais on a vu les découvertes se dérouler à un rythme aussi rapide que ça. Et donc, on est vraiment dans une phase extraordinaire. Et malgré tout, il y a des grandes questions qui restent en suspens. On ne connaît pas la nature de la matière et l'énergie noire. Vous allez me dire, bon, c'est jamais 95% de l'univers. Pourquoi on s'en préoccuperait tellement ? Quand et comment sont nées les étoiles et les galaxies, et les premières étoiles et les premières galaxies ? Quelle est la source d'énergie responsable de la réionisation de l'univers, le fait que les atomes ont été brisés par quelqu'un ? Et puis, quelle est l'origine de la forme des galaxies ? Et d'autres questions. Alors, par rapport à toutes ces questions, la question que j'aimerais adresser avec vous ce soir, c'est quel est le rôle de la lumière dans cette histoire ? Et pour illustrer l'importance de cette question, je reviens sur l'image la plus ancienne de l'univers, celle du fond diffus cosmologique, celle qui a été prise ici par la satellite Planck, qui montre donc le plus lointain passé dans lequel on peut remonter avec la lumière. D'accord ? Vous avez des grumeaux rouges, vous avez des grumeaux bleus, et donc la première réaction que vous pouvez avoir, c'est de dire « c'est joli, c'est rouge et bleu ». Après, un théoricien vous dira « ah, mais la profondeur... » Il pourra vous donner plein de paramètres physiques, mais en réalité, c'est un truc qui est rouge et bleu. Bon. Ce qu'on dit généralement, c'est que ce truc rouge et bleu vous montre les grumeaux, les germes des galaxies et des structures de l'univers. C'est ça, souvent, si vous avez déjà écouté des présentations d'astrophysique, on vous dit ce sont les germes des structures de l'univers. Par exemple, ici, si je zoome sur ce petit truc rouge, qui est une surdensité d'un cent millième par rapport au reste, c'est censé être donc un germe des structures de l'univers. Bon, en réalité, les plus petites structures qu'on peut voir dans cette image, donc ce qu'on appelle la résolution même angulaire de l'image de Planck, aujourd'hui correspondent à ce cercle qui est ici, qui est autour de ce qu'on appelle un amas de galaxies, qui est le petit point au centre du cercle, qui était Virgo, et en fait, c'est une taille de 20 millions de parsecs, c'est-à-dire 65 millions d'années-lumière. C'est énormément plus grand que la plus grande structure qui a jamais existé gravitationnellement liée dans l'univers. Donc, ce ne sont pas les germes des structures dans l'univers. D'ailleurs, un cent millième de fluctuation n'a pu croître et devenir plus dense que par un facteur 1000, parce que c'est un décalage de 1000, le redshift de 1000, et donc ça ferait aujourd'hui des écarts de densité de 1%, et les écarts de densité dans l'univers, ils sont de milliards et de milliards. Donc c'est impossible de faire des galaxies avec ça. Mais donc on n'est pas là, donc c'est la merde. Donc je laisse le temps aux gens qui se disent « mais alors ?» etc., parce que sinon ils disent « mais alors ?» Bon, bien sûr, c'est peut-être la meilleure preuve qu'il existe probablement de la matière noire dans l'univers. Alors, on peut très bien ne pas faire appel à la matière noire, mais à ce moment-là, il faut changer les lois de la physique. Mais aujourd'hui, dans la théorie actuelle, il faut faire appel à la matière noire parce que c'est elle qui va avoir des petits grumeaux beaucoup plus petits que ceux que vous voyez là et plus profonds qui vont faire les vrais germes des galaxies. Donc aujourd'hui, les germes des galaxies, ce n'est pas ces trucs rouges et bleus, ces trucs rouges et bleus, c'est la partie émergée d'un iceberg et ces petites fluctuations faites de matière noire vont donner naissance aux galaxies. Alors ça va m'intéresser un petit peu cette histoire de la matière noire parce que c'est une matière qui ne fait pas de lumière et donc qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce que serait l'univers s'il n'y avait pas de lumière. Donc ça, c'est le paradigme actuel de la formation des galaxies. Il y a eu des petites fluctuations qui ont été faites au tout début de l'histoire de l'univers, qui vont donner naissance aux germes des galaxies, et puis qui vont croître grâce à la matière noire. Alors, quel est le rôle de la gravité dans cette histoire ? Il y a un article qui a été publié en 1902 par quelqu'un qui s'appelle Sir James Jeans. Et quand on regarde l'article, en fait, il répond à quelqu'un qui s'appelle George Darwin. Et en fait, c'est le cinquième enfant de Charles Darwin. Donc en fait, tous les gens qui ont fait les découvertes, ils sont tous plus ou moins père, fils, machin. Enfin, c'est assez incroyable. Il y avait quelques scientifiques à l'époque, je ne sais pas. Donc il se pose une question, il se dit, bon, bah, si je prends une boule de gaz dans le ciel, est-ce qu'elle peut fabriquer une galaxie ou pas? Enfin, à l'époque, on ne connaissait pas des galaxies, mais donc un système solaire ou pas. Et puis, il va mettre en avant ce qu'on appelle un mécanisme qui s'appelle une instabilité gravitationnelle de Jeans, à ne pas confondre avec le pantalon américain. Non, mais je précise. Et donc, en fait, ce que vous avez, c'est que vous avez une agitation thermique des particules qui sont agitées, puis vous avez de la gravité qui fait que ça s'effondre. Et la question, c'est si c'est très agité, ça ne va pas s'effondrer, et si c'est très massif, ça va s'effondrer. Et alors, pour répondre à cette question-là, les scientifiques qui réfléchissent beaucoup, ils regardent quelle est la longueur du jean. Donc, selon la taille du jean, vous allez savoir si ça va s'effondrer ou pas. Et donc, si c'est grand, bah, vous avez beaucoup de masse dedans, ça va pouvoir s'effondrer. Si c'est petit, bah, y a beaucoup d'agitation par rapport à la masse, ça ne va pas s'effondrer. Donc, c'est la longueur de jeans qu'on regarde. Et quand on regarde, bah, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc il faut rajouter la matière noire. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand on prend des particules qui s'attirent sous l'effet de la gravité. Il y a un centre, qui est leur centre de gravité, et puis on va regarder cette particule bleue. Et on va considérer que toutes ces particules, c'est des particules de matière noire. Alors voilà, la particule, elle est attirée vers le centre de masse et elle tombe vers le centre de masse comme une pomme qui tomberait d'un arbre. Sauf que là, il n'y a pas de sol. Donc quand elle arrive au niveau du centre, elle a une grande vitesse et elle ne s'arrête pas, elle continue. Puis après, au bout d'un moment, quand elle a dépassé, elle est de nouveau attirée, elle repart. Et il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête. Il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête parce qu'elle ne perd pas son énergie, c'est une bille de matière noire. Et en fait, toutes les autres, c'est pareil. Donc, c'est plein de petites billes de matière noire qui tournent. Et en fait, ça fera jamais toutes les structures que vous connaissez dans l'univers. Ça fera une espèce de machin qui va s'effondrer, qui va faire ce qu'on appelle un halo de matière noire qui est extrêmement étendu, qui est extrêmement diffus et dont la forme est universelle. Elle est universelle. Et dans toutes nos théories, on a cet halo universel. Après, il y a des discussions autour de petites fluctuations, etc. Mais dès lors que vous laissez la gravité agir, vous le savez, on a fait des simulations, c'est ce qu'on voit avec la matière noire, ça ne peut générer qu'une espèce de grosse boule énorme qui a une forme universelle, et pas du tout ce qui se passe tout au centre, qui est par exemple une galaxie spirale comme la nôtre, ou à l'intérieur des nébuleuses, ou à l'intérieur des systèmes solaires, ou à l'intérieur de la vie. Et donc, là, vous savez, vous avez tout de suite la preuve que la différence qu'il y a entre un monde dominé par la gravité sans lumière et un monde avec de la lumière, c'est tout le reste par rapport à cet halo de matière noire. C'est-à-dire que la gravité dont on pense qu'elle est la chose qui fait les structures, elle ne fait rien au niveau des structures, elle fait qu'amener un peu les choses ensemble, mais c'est la lumière qui va tout faire derrière. Donc en pratique, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous avez de la lumière qui est rayonnée, lorsque vous avez de la matière qui fait de la lumière, donc pas de la matière noire, la matière classique, cette lumière, elle emporte avec elle l'agitation des particules, et les particules vont progressivement se grouper ensemble et prendre forme. Alors je vais essayer de préciser maintenant pourquoi c'est important et pourquoi on n'a pas, disons, l'habitude de décrire ça de cette manière-là. Je vais vous montrer. Je vais être obligé d'introduire le concept d'entropie. J'ai pris une image d'un blog. L'entropie, c'est ce qui décrit comment le désordre s'installe dans un système aussi vaste que l'univers. Ici, l'Encyclopédie Britannica, l'idée qu'un système ne peut pas devenir spontanément mieux ordonné. Donc, l'entropie, c'est le fait que le monde va vers plus de désordre. L'Université Paris Sciences Lettres. Le principe de désordre, l'entropie, c'est un principe de désordre. Voilà. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce que dans la physique, en laboratoire, lorsque vous regardez ce qui se passe dans un laboratoire, tout va toujours vers plus de désordre. C'est-à-dire que si je prends un verre et que je le laisse tomber, si c'est un verre en verre, il va casser en morceaux. Or, on vit dans un univers qui est né il y a 13,8 milliards d'années, qui a eu un Big Bang, qui a formé des galaxies, qui a formé des étoiles, qui a formé des planètes, qui a formé la vie. Et donc, il y a une contradiction apparente entre le principe d'augmentation de l'entropie, qui est le second principe de la thermodynamique, et puis ce qu'on observe. En d'autres termes, on a le choix entre deux cosmogonies, une cosmogonie de type 1 qui est qu'on va du chaos vers le cosmos, une organisation du monde, et une cosmogonie du type 2, qu'on va de l'ordre vers le désordre. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait que le monde s'est organisé, c'est-à-dire est allé du chaos au cosmos, alors que dans le laboratoire, on va toujours vers plus de désordre. Et il y a un article d'Einstein qui a été écrit en mars 1905, qui m'a particulièrement marqué parce que je ne suis pas un spécialiste d'Einstein, mais il y a une phrase qu'il a écrite dedans, dont je n'avais jamais entendu parler et qui m'a un peu touché, parce que, en fait, dans cet article, ce que fait Einstein, c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel, ce n'était pas pour la relativité, c'est qu'il va résoudre une énigme qui avait été résolue juste avant lui par quelqu'un qui s'appelle Planck. Et pour résoudre cette énigme, il fait la même chose que Planck. C'est-à-dire, il fait appel à ce qu'on va appeler des photons, des grains de lumière. La seule différence entre les deux, c'est que Planck, lui, n'y croyait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il a écrit mathématiquement des équations qui résolvaient un problème, mais il n'y croyait pas. Einstein, lui, il va tellement y croire, il va leur donner un sens physique, qu'il va écrire cette phrase « Je montrerai dans un autre article que pour les phénomènes thermiques, c'est-à-dire ce qui fait de la lumière, il est tout à fait suffisant d'utiliser ce qu'on appelle la probabilité statistique, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, et j'espère ainsi supprimer une difficulté logique qui entrave l'application cohérente du principe de Boltzmann. » Je vais très vite passer sur ça, mais je ne veux pas vous embêter, mais je veux juste insister sur ce point-là. Qu'est-ce qu'a voulu dire Einstein ? En fait, ce qu'il a voulu dire, c'est que quand on regarde pourquoi l'univers tend vers plus de désordre, pourquoi un verre, lorsqu'il se casse en 1000 morceaux, ne se reconstitue-t-il pas ? Parce qu'il y a plus de distribution des morceaux de verre aléatoirement sur la table que des morceaux de verre ensemble. Et donc, naturellement, vous allez toujours voir une évolution des systèmes vers ce qu'il y a de plus probable. C'est pour ça qu'Einstein parle de probabilité statistique. Et c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on décrit pour la matière. Mais on ne l'a jamais fait pour la lumière. On n'a jamais utilisé ce terme-là pour la lumière, de calcul de probabilité. La lumière, on va parler de la lumière en termes de température, de rayonnement, de radiation. Et lui dit, mais si on prenait en compte la lumière comme la matière, si on traitait la lumière comme des grains d'énergie, de même que la matière est faite d'atomes qui sont des grains de matière, alors on pourrait traiter les deux de la même manière cohérente. Alors aujourd'hui, dans un livre de physique, lorsque vous voyez un système qui rayonne, on dit que c'est un système ouvert et on ne peut pas appliquer la thermodynamique, le second principe de la thermodynamique, l'idée que l'entropie augmente parce qu'il est ouvert. Mais maintenant, si vous considérez qu'il contient des grains de matière et des grains d'énergie, que sont les photons, et vous faites ce cercle jaune autour, et vous le considérez comme un système fermé, à ce moment-là, je vais juste montrer une formule et après, je vais vous demander de me croire pour la suite, mais... La formule de Boltzmann, qu'il a écrite en 1872, qui était de dire qu'on va toujours vers des états les plus probables, c'est-à-dire là où il y a plusieurs morceaux de verre, le nombre d'états possibles des morceaux de verre, c'est W. Et donc, il dit que l'entropie ne peut qu'augmenter parce qu'on va vers les états qui vont favoriser le plus grand nombre d'arrangements possibles, W. Eh bien, si vous rajoutez à ça la prise en compte de la lumière, c'est-à-dire qu'il y a aussi un grand nombre d'arrangements de l'énergie sous la forme de plein de petites particules qu'on appelle des grains de lumière, eh bien, vous avez une formulation de l'ensemble plus complète, comme voulait le dire Einstein, et dans cette vision complète, vous vous apercevez que, comme la matière, l'énergie, elle s'égrène, et que le sens naturel, c'est d'aller vers le plus possible de morceaux, mais comme il est beaucoup plus efficace de faire des morceaux de lumière que des morceaux de verre, eh bien, toute l'histoire de l'univers, c'est une histoire dans laquelle la lumière se multiplie et les structures se forment, et des structures de plus en plus complexes. Voilà. Donc, en gros, ce que ça veut dire, ce premier point que je voulais dire dans ma présentation d'aujourd'hui, c'est que l'histoire de l'univers est une histoire de structures de plus en plus complexes qui, lorsque les atomes se forment, les molécules se forment, et les différentes structures dans l'univers vont favoriser la multiplication des morceaux d'énergie, qu'on appelle les particules de lumière, et cette multiplication des particules de lumière va expliquer pourquoi l'univers se structure tout en suivant cette loi d'aller vers de plus en plus d'entropie. Là, j'ai montré une balle de fusil. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une étoile très massive fait la lumière, ce sont des photons qui peuvent briser toutes les molécules, des photons ultraviolets qui ont une très grande force. Lorsqu'un grain de lumière comme ça rencontre un grain de poussière, il est subdivisé en 300 photons qui ont très peu d'énergie, comme des plumes. Et cette multiplication du nombre de photons, donc ça revient à des verres qui cassent, mais ça c'est de l'énergie, ça fait que les photons ne vont pas détruire les molécules qui vont permettre de donner naissance à des étoiles. Et donc toute l'histoire de l'univers est une histoire d'une multiplication du nombre de photons. Ça veut dire que la seule différence qu'il y a entre hier, aujourd'hui et demain, c'est qu'hier il y avait moins de photons, aujourd'hui il y en a plus et demain il y en aura encore plus. Le véritable sens de l'évolution de l'histoire de l'univers, c'est qu'il va vers toujours plus de lumière. Et ça, on peut le montrer, le suivre depuis la formation des premières particules jusqu'à aujourd'hui. Et ça va jusqu'à l'être vivant. L'être vivant est encore plus efficace à produire de la lumière et donc à produire de l'entropie qu'une étoile. Un être humain, par exemple, s'il avait la masse du Soleil, produirait 200 000 fois plus de photons que le Soleil. Parce que nous produisons de la lumière par notre métabolisme à un rythme avec une efficacité qui est 200 000 fois plus grande que le Soleil. Et donc ça donne à penser que la vie n'est pas un pur hasard dans l'histoire de l'univers, elle s'inscrit dans les lois de la physique de base et elle est simplement un mécanisme dans la structuration de la matière qui permet à l'univers de répondre à cette augmentation de l'entropie et de produire de plus en plus de lumière. J'ai fini mon premier point. Donc ça suggère qu'il y a de la vie partout dans l'univers. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais c'est ça. Maintenant, je vais passer à mon deuxième point, qui est qu'on va maintenant appliquer cette idée du métabolisme de l'être humain qui génère de la lumière. On va voir comment ça s'applique aux galaxies. On a fait une découverte au début des années, en 2007, d'une relation entre la masse et la puissance lumineuse des galaxies, que j'ai vraiment très rapidement résumé ici avec ce diagramme. Lorsque plus une galaxie est massive, et plus elle produit de lumière, mais ce qui a été vraiment étonnant quand on a fait cette découverte, c'est que les galaxies ont toutes des formes différentes. On pourrait penser qu'elles ont des histoires de formation d'étoiles différentes, et en réalité, on s'aperçoit que leur masse définit quasiment parfaitement la puissance lumineuse des galaxies. Et c'est une loi qu'on retrouve chez les étoiles et chez les animaux. Alors, ça a été découvert en 1932 par Max Kleber, qui est le lien entre la masse et le métabolisme d'un animal. Il a mesuré la quantité de lumière qui était rayonnée par quelqu'un, la chaleur rayonnée, qui est une mesure du rythme des réactions chimiques dans son corps, et il s'est aperçu qu'il y avait une loi de proportionnalité avec une puissance, le métabolisme, la chaleur rayonnée, c'est la masse à la puissance 0,7. Et ça s'applique à tous les animaux. Il se trouve qu'on a trouvé exactement la même loi pour les galaxies, avec en plus la même puissance 0,7. Et la question qui a émergé à la suite de cette découverte, il y a deux grandes questions qui ont émergé à la suite de cette découverte. La première, donc, c'est cette loi qui est résumée ici, qu'on appelle la séquence principale des galaxies, qu'on a découvert en 2007. C'est que d'une part, les galaxies semblent avoir un mécanisme qui régule leur formation d'étoiles, qui fait que la naissance d'étoiles est toujours le même, de la même manière que dans un être vivant, il y a une sorte d'homéothermie qui fait que vous avez toujours la même température. Et d'autre part, on s'est aperçu que les réservoirs de matière qu'il y avait dans les galaxies ne permettaient pas de former des étoiles pendant plus de 600 millions d'années. Or, les galaxies forment leurs étoiles dans cette séquence principale pendant des milliards d'années. Et donc, la clé de cette énigme, pour résoudre cette énigme, c'est le deuxième point que je voudrais vous dire ce soir, qui est ce changement de paradigme dans notre compréhension de la formation des galaxies. Et pour ça, voici une image qui vous montre une étoile, par exemple une étoile qui fait 10 fois la masse du Soleil. Ben, une étoile qui fait 10 fois la masse du Soleil rayonne comme 4000 Soleils. Tellement les rythmes des réactions nucléaires est élevé. Et vous avez autour 4000 petites étoiles. Donc vous voyez que les 4000 petites étoiles font la même quantité de lumière, mais elles font 4000 fois la masse du Soleil, tandis que l'autre ne fait que 10 fois la masse du Soleil. Donc il y a beaucoup plus de masse dans les petites, et la forme de cette structure est complètement définie par les petites étoiles. Ça veut dire qu'il est vraiment fondamental de voir les petites étoiles si on veut connaître la forme et la masse d'une galaxie. Or, Hubble, le télescope Hubble, pour les galaxies lointaines, ne voit que les grosses étoiles. parce qu'elle rayonne dans l'ultraviolet et il n'est capable de voir que dans l'ultraviolet les galaxies les plus lointaines à cause du décalage vers le rouge. James Webb voit l'ensemble. En d'autres termes, Hubble est incapable de distinguer un écureuil d'un éléphant. Et donc, avec le James Webb, maintenant, on est capable de distinguer la forme des galaxies dans l'univers lointain. Et c'est pour moi la découverte la plus remarquable et la plus surprenante qui a été faite par le James Webb au cours des dernières semaines, que je vais essayer de vous résumer ici. Voici une vision de l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui et tel qu'il était dans le passé. Donc, ces petits points sont des galaxies. Et plus on voit loin dans l'espace, plus on voit loin dans le temps. Voici la forme d'une galaxie typique autour de nous, comme une galaxie comme la Voie lactée, une galaxie spirale qui forme des étoiles. Puis il y a des galaxies qui ne forment plus d'étoiles, qu'on appelle des elliptiques. C'est les deux grandes familles des galaxies. Et avec Hubble, quand on est remonté dans le passé, voici la forme des galaxies qu'on a commencé à voir, des formes tout à fait irrégulières, avec des grumeaux, et qui n'ont rien à voir avec la forme des galaxies d'aujourd'hui. Et donc, Hubble, avec sa vision, nous a donné l'impression que le monde de l'univers lointain était un monde fait de collisions galactiques qui étaient responsables des formes des galaxies et de flambées d'étoiles qui étaient liées à ces collisions galactiques. Et on a pensé que c'était vraiment ça la clé de toute l'histoire de l'univers. Seulement, comme je le disais tout à l'heure, Hubble ne voit que la partie ultraviolette de la lumière des étoiles lointaines du fait que l'univers est en expansion et décale la lumière vers le rouge. Avec le James Webb, on a maintenant la possibilité de distinguer un éléphant d'un écureuil. Alors, qu'est-ce qu'a vu James Webb ? Donc, je vous remets ici la galaxie spirale telle qu'on la voit aujourd'hui. Et voici maintenant les premières images de James Webb qui sont parues il y a très peu de temps. Et vous avez ici des galaxies qui remontent à 4,7 milliards d'années après le Big Bang, 3 milliards d'années après le Big Bang, 2,9 milliards d'années après le Big Bang, et vous reconnaissez de belles galaxies spirales qui n'ont rien à voir avec les formes que vous aviez vues tout à l'heure de Hubble. Et maintenant, 600 millions d'années, toutes ces époques-là, on voit des galaxies spirales extraordinairement bien formées. Ça a été une surprise énorme pour tous les astrophysiciens, de voir à quel point l'univers vu par le James Webb ne correspond pas à celui qu'on voyait avant. C'est-à-dire que la forme des galaxies, cette forme de robe en spirale qui danse des galaxies, est devenue ce qui est le plus universel dans l'univers. Et on ne retrouve pas du tout les formes qu'avait vu Hubble. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il ne voit pas dans les mêmes longueurs d'onde, et aussi parce que le James Webb est beaucoup plus sensible avec son grand miroir. Il voit beaucoup mieux, et donc il voit de la lumière que Hubble n'était pas capable de voir. Alors tout le monde sait que Hubble avait une bonne fourchette, et ce qu'on appelait la fourchette de Hubble, donc qui était le fait qu'il y avait des galaxies spirales, celles qui sont en haut sont des galaxies spirales classiques, et puis là en bas, vous voyez, il y a une barre au milieu, donc les autres sont mal barrées, et puis celles-ci sont bien barrées. Et puis ici, vous avez des galaxies elliptiques, ça c'est ce qu'on appelle la fourchette de Hubble. Et le satellite Hubble a complètement brisé la fourchette de Hubble parce qu'il montrait d'autres formes. Et finalement, le James Webb a repêché la fourchette de Hubble qui devient maintenant de nouveau un critère pour analyser les galaxies lointaines. Bon. Alors, maintenant, on a un problème. C'est que avant, quand on avait des petits grumeaux comme ça, comme le voyait Hubble, on comprenait quelle était l'origine de cette histoire-là parce que quand on remonte dans le passé, l'univers était beaucoup plus dense, les galaxies étaient plus proches les unes des autres, et elles se cognaient et elles devenaient irrégulières. En fait, c'était très très difficile de faire une galaxie avec un beau disque, avec cette robe magnifique d'une galaxie spirale, parce que ça n'allait pas survivre. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a des galaxies qui tournent ? Et donc, une fois n'est pas coutume, lorsque les scientifiques ont des questions fondamentales, ils font comme tout le monde. Ils vont à l'église. Et donc, dans cette église, il se trouve qu'il y avait l'ordinateur le plus puissant de la planète. L'église était à Torre Girona, près de Barcelone, a été désacralisée. Et alors, bon, ce qui est un peu étrange, c'est que c'est donc dans une église que des gens se sont mis à créer leur univers, enfin, à recréer l'univers, dans une église. Allez savoir. Et donc voici l'univers qui a été recréé donc, dans un article de Ogvir, Pichon et Tessier, donc avec des gens d'ici. On a d'abord vu la structure de la toile cosmique. C'était quelque chose qui est connu. Hein. La toile cosmique, c'est le fait que lorsque vous regardez toutes les galaxies, elles dessinent des lignes comme ça. C'est des alignements de galaxies, mais ce n'est pas vraiment un truc physique. C'est des alignements comme des petits points qui sont disséminés dans l'espace et qui dessinent des lignes. Mais quand on a zoomé dessus, là, on a commencé à voir des filaments de matière classique, d'hydrogène, d'hélium, qui coulaient dans les galaxies et qui nourrissaient les galaxies. Une image, une vue d'artiste de ça, un zoom encore plus, c'est un peu... Typiquement, il y a trois filaments qui nourrissent une galaxie. Et lorsqu'on a calculé la quantité de matière qui venait de ces filaments, on s'est rendu compte que l'essentiel de la masse d'une galaxie ne venait pas de toutes les collisions galactiques comme on le pensait avant, mais venait de cet apport de matière diffuse qui vient de ces courants de refroidissement et qui arrivent et qui nourrissent les galaxies en permanence. Alors pourquoi ça peut se relier à ces découvertes qu'a fait le James Webb ? Parce que je vais vous poser une question que vous vous posez souvent, je pense, qui est la question suivante. Si je vois un moulin qui flotte dans l'univers, et que les pales du moulin tournent, qu'est-ce qui fait tourner le moulin ? Question classique, en classe de première, tout prof de physique vous dit, etc. Un moulin flotte dans l'univers, ses pales tournent, qu'est-ce qui fait tourner le moulin ? Alors vous allez dire, le vent. Il n'y a pas de vent dans l'univers, machin, etc. Et donc, en fait, c'est exactement pareil. C'est que là, vous avez des galaxies qui tournent, et qui tournent avec une vitesse non négligeable, avec des grandis, etc. Et il se trouve que lorsque la matière arrive, elle fait exactement la même chose que le vent qui fait tourner les ailes d'un moulin, les pales d'un moulin. C'est qu'en fait, la matière, elle arrive de façon un peu décalée et elle peut faire tourner la galaxie. Et justement, des études ont montré qu'il est très probable que la rotation des galaxies, leur danse en quelque sorte, soit nourrie et soit même l'incarnation de ces filaments qui sont pas visibles encore par nos télescopes, qui ont été découverts dans nos ordinateurs. Et donc, dans ces simulations-là, qui ont été faites avant les images du James Webb, l'idée, c'était de dire, il est possible que si on voit des galaxies qui tournent et qui sont des grandes spirales dans l'univers lointain, ce soit la preuve ça soit nourri par ces filaments. Il se trouve que lorsque les filaments font tourner les galaxies se mettent à danser, ça résout l'autre problème. Donc là, avec ça, on a résolu l'une des énigmes, c'est que ça apporte de la matière en permanence dans les galaxies et que la quantité de matière qu'il y a dans une galaxie ne suffit pas à lui donner la possibilité de donner naissance à des étoiles pendant des milliards d'années. Il n'y a que de quoi faire 600 millions d'années. Mais elles sont nourries en permanence. En gros, la question qu'on se posait avant, c'était... Quelqu'un a une voiture, il veut faire le tour de la Terre, son réservoir a 20 litres d'essence, vous allez dire, c'est pas possible. Et en fait, si, il fait le tour de la Terre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des stations-service. Et donc, les galaxies, elles font des étoiles pendant des milliards d'années, même si elles ont un réservoir pendant quelques millions d'années, parce qu'il y a des stations-service. Vous allez me dire, c'est quand même dingue qu'il faille faire des études pour dire des trucs aussi évidents. Mais en dehors du fait qu'il y a des moulins qui flottent dans l'espace et qu'il y a des stations-service qui viennent les nourrir, je me rends compte, c'est un peu... La deuxième partie de l'énigme, c'était qu'est-ce qui fait qu'il y a une autorégulation, qu'est-ce qui fait qu'il y a un métabolisme des galaxies, qu'il faut qu'elles forment leurs étoiles à un rythme universel, cette séquence principale dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est un article qui a été publié très récemment d'un étudiant de chez nous avec Patrick Henbel, qui s'appelle Noé Brussy. Il vient de recevoir le prix de la thèse du LabEx P2IO en 2022, et qui montre que lorsque les galaxies tournent comme ça, ça engendre une agitation de la matière qui fait que ça résiste à l'effondrement de jeans dont je parlais tout à l'heure, le pantalon selon la longueur, machin. Et donc, plus c'est agité, moins ça s'effondre, et donc plus ça forme, plus le rythme de formation d'étoiles ne peut pas s'emballer. Et donc on s'aperçoit que le fait que les galaxies tournent, c'est la clé de cette séquence principale, du fait que les formations d'étoiles a lieu à un rythme régulier, du fait que les galaxies sont nourries, et en pratique que c'est véritablement ça la clé de la naissance des étoiles dans l'univers. En d'autres termes, ce qu'on voit dans une galaxie comme celle-ci, qui ressemble un peu à notre galaxie de la Voie lactée, avec des bras en spirale, c'est vraiment un mécanisme universel qu'on retrouve dans l'univers, jusqu'à l'univers très très lointain, où on a à la fois la matière qui danse, qui tourne, et puis pourquoi je montre un derviche tourneur vu de dessus ? C'est parce que vous voyez les bras en spirale de la galaxie, ce sont des ondes de densité, c'est-à-dire que les étoiles tournent autour du centre de la galaxie, engendrent des vagues qui compriment la matière, et c'est là où naissent les étoiles. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît dans notre galaxie, la Voie lactée. Ben, maintenant, on sait que ça se produit 600 millions d'années après le Big Bang. Depuis au moins 600 millions d'années après le Big Bang, l'essentiel de la formation d'étoiles dans la galaxie se produit de cette manière-là. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment troublant. Je me suis même permis de faire une image avec de l'intelligence artificielle. Vous allez me dire que c'est plus artificiel que de l'intelligence, mais c'est pas grave. Et où j'ai combiné une pouponnière d'étoiles avec une vague pour vous montrer que c'est comme une vague qui se déplace, parce que l'image, ça fait comme ça. Voilà, c'est comme une vague, qui est comme une vague qui se déplace sur la surface de l'eau et qui provoque la naissance des étoiles. Et c'est ça que vous voyez. En fait, dit de manière poétique, les systèmes solaires, donc nous, sont nés dans l'écume des vagues de la robe dansante d'une galaxie. C'est-à-dire que ce que vous voyez quand vous voyez cette galaxie-là, c'est de l'écume, l'écume des vagues qui se propagent, c'est vraiment des ondes, des vagues, et qui donnent naissance à des étoiles. Nous sommes nés dans l'écume des vagues de la robe dansante d'une galaxie, et en plus, il est possible que les premières briques élémentaires de la recette de la vie commencent dans ces vagues. C'est ce qu'on voit dans cette magnifique image réalisée avec la caméra MIRI du télescope spatial James Webb, qui a d'ailleurs été réalisée en France pour la partie majeure, sous maîtrise d'œuvre du CEA. Vous voyez ici, les couleurs que vous voyez là, ce sont les molécules hydrocarbures aromatiques polycycliques, c'est-à-dire des molécules complexes qui rayonnent dans l'infrarouge dit moyen. Et donc toute la lumière que vous voyez là est rayonnée par des molécules qui viennent de naître. Et donc on est en train de voir la complexité en train de naître dans les bras, dans les vagues, dans l'écume des vagues des galaxies. Donc qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit deux choses. Un, que si vous faites un univers doté de gravité et vous ne mettez pas de lumière, vous ne faites rien d'autre que des espèces de halos diffus et vous ne faites pas les structures de l'univers. C'est la lumière qui a sculpté l'univers. Et le fait que nous allons vers toujours plus d'entropie, quand vous lisez dans les livres de physique que ça veut dire que nous allons vers toujours plus de désordre, en fait, c'est faux. C'est faux, et c'est dans tous les livres de physique. C'est faux, pourquoi ? Parce que c'est vrai dans mon laboratoire, mais ce n'est pas vrai dans un système autogravitant, c'est-à-dire les systèmes qui sont dans l'univers, parce qu'en réalité, la production de lumière est beaucoup plus efficace pour augmenter l'entropie que le désordre. Et donc l'univers ne fait qu'organiser s'organiser et créer de l'ordre. Pourquoi je trouve que c'est important de dire ça, et en particulier de changer les livres de physique par rapport à ça ? Pour une raison qui me concerne particulièrement en ce moment, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on discute avec les jeunes, et j'en parlais encore ce midi avec des collègues, il y a de plus en plus de jeunes qui sont affectés par les conditions actuelles de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire le réchauffement climatique, la pandémie, la chute de la biodiversité et tout ça, de manière totalement légitime, parce qu'il y a un grand défi pour l'humanité. Mais si la physique leur dit que de toute façon ils sont condamnés, parce qu'on vit dans un monde qui va vers toujours plus de désordre, et que le fait que ce soit la merde, c'était écrit avant, si c'est vrai, autant leur dire, parce que c'est pas la peine de leur cacher, mais si c'est faux, c'est dommage. Et donc, toute l'histoire de l'univers, c'est l'histoire d'un monde qui n'a cessé de se structurer. Et qui s'est organisé. Ce n'est pas du tout un monde qui va avoir plus de désordre. Donc l'idée qu'on est condamné, etc., c'est pas... Alors après, on peut se demander, mais alors à ce moment-là, peut-on s'inspirer des lois de la physique pour se demander quel est le défi qui concerne l'humanité aujourd'hui ? Et moi, j'ai envie de dire que on le connaît, le défi qui nous concerne aujourd'hui, puisqu'on est comme ces particules de matière qui doivent engendrer de la lumière pour se structurer. Nous, aujourd'hui, soit on est capable d'avoir une action à l'échelle planétaire au-delà des frontières de façon rationnelle, et à ce moment-là, y a des solutions, et soit on ne l'est pas. Mais ça, si on l'était, ça veut dire qu'on a un défi qui fait qu'on va vers quelque chose de mieux, parce que finalement, c'est d'aller vers quelque chose de mieux. Et donc, je pense que la physique, elle doit aussi s'adresser à ces problèmes qui vont au-delà de la pure mécanique, parce que les mots qu'on choisit et les implications que ça peut avoir, il faut qu'elles rentrent de nouveau dans le débat social. et pas qu'elle soit rejetée sous prétexte qu'on ne sait pas toujours quel est le bon vaccin pour le virus. Voilà. Et le deuxième point que je voulais dire, c'était qu'on vient de vivre un véritable changement de paradigme majeur dans l'histoire de l'univers, dans notre compréhension de l'histoire de l'univers, parce que l'histoire de l'univers, elle s'en fout complètement de nous, mais nous, on vient de vivre un changement de paradigme, et c'est qu'en fait, on vient de se rendre compte qu'il y avait... qu'en fait, toutes les galaxies étaient interconnectées par des filaments qui sont à l'origine de leur forme. Et Vera Rubin, qui est l'astronome qui a relancé le mystère de la matière noire, qui avait été oublié pendant une quarantaine d'années, avait eu cette intuition géniale à la fin des années 60, début des années 70. Pour elle, le fait que les galaxies tournent sur elles-mêmes, c'était la clé de leur formation d'étoiles, de l'origine des formes dans l'univers. Elle pensait que la danse des galaxies, c'était la clé de tout. Et c'est pour ça qu'elle a dédié tout un travail qu'elle a fait sur ça. Soit dit en passant, deuxième message, c'est que lorsqu'elle était jeune fille et qu'elle voulait faire de la science, son prof, à l'époque, lui a dit « Vous êtes une jeune femme, vous voulez faire de la science, vous devriez faire de la peinture ». Et donc, heureusement, elle a dit non, elle a continué. Bon, elle a fait un stage d'astrophysique et son responsable, comme elle a commencé à trouver des résultats intéressants, il lui a dit « J'ai cru comprendre que vous étiez enceinte. Il y a le congrès de la Société américaine d'astronomie. C'est pas la peine que vous y alliez, enceinte. Je vais y aller, je vais présenter les résultats et je les publierai puisque c'est moi qui les présente. » Elle a dit « Non, je vais y aller moi. » Donc ses parents l'ont amenée en voiture, elle est allée, etc. Ensuite, elle a fini par avoir un poste d'astronome, et puis elle s'est dit « je vais aller au télescope en tant qu'astronome ». Et là, on lui a dit « non, c'est pas possible ». Et elle a dit « pourquoi ?» Et on lui a dit « parce que vous êtes une femme ». Elle dit « je sais ça, en fait, on m'avait déjà dit, mais je vois pas le lien ». Et donc là, ils ont dit « on n'a pas de toilettes pour les femmes ». Alors elle a dit « ok ». Donc elle était au télescope, et vous savez, « homme » en anglais, ça se dit « men », « m-e-n », et elle a écrit « w-o » devant « m-e-n », ça fait « woman », ça veut dire « femme », et elle a dit « ben maintenant, il y a des toilettes pour les femmes ». Voilà. Et donc elle est allée au télescope, et elle a complètement révolutionné notre compréhension des galaxies en faisant des observations avec un spectrographe, avec quelqu'un qui s'appelait Ken Ford, qui permettait de voir cette danse des galaxies au-delà des limites, etc. Et justement, dans ce bouquin qui s'appelle « Les 10 000 lignes de l'univers », je raconte cette histoire-là. Pourquoi ? Parce que je me dis, aujourd'hui, on a un défi de faire que les jeunes femmes aillent vers la science. Ce n'est pas simplement d'embaucher des femmes, parce que les pauvres, quand vous avez 20 élèves avec une femme, vous pouvez embaucher toutes les femmes, mais c'en est une. Donc, vous pouvez les embaucher toutes, là, une. Mais c'est avant. C'est avant. Et si Vera Rubin avait accès, la dernière fois où on lui a dit, la dernière barrière qu'on lui avait fait, si elle avait lâché le morceau, peut-être qu'on n'aurait pas relancé le défi de la matière noire. Or, le défi de la matière noire aujourd'hui, c'est peut-être le principal défi qui fait que les accélérateurs de particules fonctionnent et qui est le plus grand défi pour la physique des particules qui aurait peut-être été en déperdition, etc. Enfin, ça a peut-être, quelque part, été un des éléments qui fait que la recherche fondamentale continue d'exister. Donc c'est aussi, je trouve que l'histoire nous raconte, nous enseigne un peu des choses à ce niveau-là qui sont assez intéressantes. Et je conclurai en disant que, voilà, si j'ai appelé ce bouquin « Les 10 000 et une nuits de l'univers », c'est parce que, bon, d'une part, il s'est écoulé 10 000 nuits depuis la découverte de la première exoplanète, depuis l'image de Hubble et aujourd'hui, donc c'est à peu près 10 000 nuits, 25 ans, mais aussi parce que notre capacité de raconter l'histoire de l'univers, de recréer l'histoire de l'univers, de compter l'histoire de l'univers, elle est fondamentale parce que ce n'est qu'une histoire et elle doit coller au plus près de la réalité. Je me rappellerai toujours une fois, Jocil, qui travaille ici souvent, et qui un jour avait donné une conférence de théorie qui expliquait certains phénomènes sur la naissance des étoiles. Je suis allé le voir à la fin de sa conférence et je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est extraordinaire ce que tu viens de présenter là, parce que ça explique plein de trucs, des questions que je me posais. Et là, il me dit, non, mais ce n'est qu'une théorie. Les théories, c'est comme les petits bonshommes en plastique qu'il y a pendant la fête de Noël. Vous savez, les gens qui sont dans la rue, qui jettent des petits bonshommes en plastique sur les vitres, Puis il colle un petit morceau, un petit moment, puis après, il tombe comme ça. Vous avez déjà vu ces trucs-là? Bon, bah, il dit une théorie, c'est comme ça. Ça reste collé un certain temps, puis après, ça tombe. Et donc, y a des théories qui collent plus que d'autres. Donc, c'est ça l'idée, en fait. C'est qu'on n'a plus du tout l'idée qu'on va vous décrire ce qu'est la réalité vraie, mais on essaie de trouver des réalités qui sont les plus près possibles, des descriptions les plus vraies possibles, les plus proches possibles. Et c'est ça qui fait la faiblesse de la science. C'est que contrairement aux complotistes, lorsque nous, on donne nos théories, on sait qu'elles vont coller un certain temps, tandis que vous pouvez reconnaître un complotiste parce que lui, il va vous dire que sa théorie, elle colle. Voilà, merci.
Merci beaucoup, David. J'ai été particulièrement ravie d'entendre que Vera Rubin avait joué un rôle important et que les femmes peuvent jouer un rôle important en science. Je me bats pour ça depuis pas mal d'années au sein de l'association Femmes et Sciences, et pour aller dire aux filles que si elles ont envie de faire des sciences, elles peuvent très bien faire des sciences. C'est pas réservé aux garçons. Et on essaye de leur dire depuis qu'elles sont petites, parce que voilà, il faut aussi convaincre les parents, les professeurs des écoles, parce que ça commence là, les professeurs de collège, etc. Donc, merci de l'avoir redit, parce que voilà, vous pouvez propager la nouvelle autour de vous. Des questions? Donc, il peut y avoir des questions sur le chat. J'en ai noté quelques-unes, je te les donnerai après. Est-ce qu'il y a d'abord des questions dans la salle?
Il y a quelqu'un qui a une question.
Qui?
Il y a un monsieur, là.
Monsieur.
Merci, merci pour cette conférence, si j'ose dire, lumineuse.
Non, mais c'est quand on dit le mot lumineux que ça enlève le truc, mais après, ça, c'est la matière noire qui se venge.
Voilà. Oui, non, oui. Non, alors, c'est lumineux. Non, je voulais juste. C'est juste une remarque, c'est pas une question, c'est de. Ah oui, ça repartit. Dans l'histoire des découvertes scientifiques, je reviens sur le moulin à vent que vous avez montré tout à l'heure. Ça me rappelle ce qu'on appelle les expériences de pensée. Voilà, et à l'instar d'Einstein qui se demandait ce qu'il verrait s'il était assis sur un rayon de lumière. C'est exactement ça. Et le reste à suivre. Ben, voilà, merci.
Non, mais c'est vrai que c'est important de s'inscrire dans une vision. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a des blocages. Béchelard appelait ça des blocages épistémologiques, c'est-à-dire que notre conception des choses, si elle aboutit à une impasse, il faut être capable de créer un autre récit pour voir autrement. Mais à partir du moment où Einstein disait aussi, ma théorie n'a de valeur que si elle est validée. Donc c'est pas grave si on écrit un autre récit, si on s'y attache pas, on sait que c'est relatif. Mais même si on est des scientifiques, je sais que c'est un peu troublant de dire ça, mais je pense que même pour des scientifiques, c'est fondamental de s'inscrire dans un récit.
Oui, je voulais vous. Donc là, on a parlé de la lumière. Il y a deux cosmologies observationnelles qui sont apparues récemment. C'est les neutrinos et les ondes gravitationnelles. C'est pas une question, mais enfin bon. Est-ce que vous pensez qu'avec le dérèglement climatique, la fonte des glaces, Ice Cube a des problèmes à venir? Et d'autre part, avec la crise mondiale, la crise sociale, la crise énergétique, Lisa a du sessouille à se faire.
Donc, en fait, il y a une grosse évolution des grands programmes scientifiques qu'on peut décrire de la manière suivante. D'abord, les agences, alors en particulier l'Agence spatiale européenne, par exemple, pour l'ISA, qui est un projet d'observatoire d'un vol en formation de 3 satellites pour capter des ondes gravitationnelles, donc des déformations spatio-temporelles, qui viendraient de trous noirs galactiques, en particulier. Donc, l'Agence spatiale européenne essaye le plus possible d'avoir des projets qui reposent sur une instrumentation qui est déjà développé maintenant. Alors qu'avant, quand on faisait des projets de satellites, on savait qu'on allait inventer des nouvelles technologies en chemin pour faire. Donc il y avait un peu plus de. Il y avait des enjeux plus grands. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que avant, à chaque fois qu'on ouvrait une nouvelle fenêtre du spectre électromagnétique, on faisait une découverte. Les rayons X, on a découvert du gaz entre les galaxies, la radio, etc. Maintenant, on a couvert tout le spectre électromagnétique. Donc, les défis sont plus grands. Donc, pour répondre précisément à votre question, je pense que l'ISA est tellement une priorité de l'Agence spatiale européenne que ce projet n'est pas menacé, mais qu'il a des dommages collatéraux, c'est-à-dire qu'en fait, il est en train de menacer l'autre mission, l'autre grande mission de l'ESA, qui s'appelle Athena, dont l'objectif, c'est d'observer l'univers dans les rayons X, et qui est menacée aujourd'hui. Voilà. Et donc, je pense que l'ISA aura lieu, peut-être avec un risque que ce soit au sacrifice d'une autre mission. SKA, qui a déjà été diminué. SKA, c'est un projet, donc lui, la France est impliquée, donc lui, il est en bonne voie. Par contre, il y avait deux phases. SKA, donc c'est le Square Kilometer Array, c'est pour voir dans les ondes radio. C'est un projet qui permettra de voir, par exemple, la rotation des galaxies, encore mieux, dans l'univers lointain, pour voir si, quand elles tournent, si on peut détecter la matière noire avec une finesse dans l'univers lointain, qui va pouvoir avoir du gaz, d'hydrogène, plus loin, voir la formation d'étoiles, voir des tas de choses, la réionisation. SKA, il avait deux phases, phase 1 et phase 2. La phase 1, qui est celle qui a commencé, je pense que maintenant, on pense que ça va se faire. La phase 2, qui était beaucoup, beaucoup plus chère, je pense qu'on peut déjà l'oublier. Euclide, alors Euclide, c'est un satellite dont l'objectif, c'est de faire la cartographie des déformations spatio-temporelles, donc des ondes, enfin pas des ondes, de la courbure de l'espace-temps engendrée par la matière noire, à différentes époques de l'histoire de l'univers pour caractériser le rythme d'expansion de l'univers qui accélère depuis 6 milliards d'années par ce qu'on appelle l'énergie noire. Euclide devait être lancé par une fusée Soyouz russe. Depuis la guerre avec l'Ukraine, il n'y a plus. Il a été question qu'il soit lancé avec le satellite Ariane 6, avec la fusée Ariane 6, qui elle-même a pris du retard et qui a mis en première priorité des lancements de satellites pour Amazon. Et donc, en contrepartie, il a été décidé de lancer Euclide avec Falcon 9 de SpaceX d'Elon Musk. Donc, l'ESA va lancer pour Amazon et Euclide va être lancé par Elon Musk. Si vous comprenez, vous m'expliquerez après parce que je n'ai pas tout suivi. Mais en fait, en tout cas, bon, c'est une opportunité, c'est génial. Il va être lancé en juillet 2023 normalement. Et donc, voilà, ça va être une révolution.
Oui, bonsoir, merci pour cette conférence. C'est plutôt une remarque. Si on part des atomes d'hydrogène et d'hélium et qu'on regarde maintenant les chaînes carbonées très complexes, on a une évolution vers une complexité plus grande. Oui. Et quand j'étais étudiant, bon, ça fait quelque temps, on m'expliquait que la mesure de l'entropie, c'était la mesure de la complexité. On ne me parlait pas de désordre. On me disait qu'on allait vers des choses simples, vers des choses de plus en plus complexes.
C'est parce que, en fait, je pense que ce dont vous vous souvenez, c'est que dans les calculs sur l'entropie, il y a ce qu'on appelle la notion d'information. Et donc, en fait, il y a différentes visions de l'entropie. En particulier, il y a les théories de l'information. Et effectivement, on s'interroge sur comment évolue l'information. Et l'information, par exemple, c'est des bits d'information dans un ordinateur, etc. Si vous relisez le cours, vous verrez que quand on parle d'entropie qui croît, enfin, sauf si, envoyez-moi la référence, si vous avez une référence qui dit que lorsque l'entropie augmente, l'ordre augmente. En fait, en pratique, dès lors qu'on ne considère pas la lumière dans le calcul, les physiciens savent depuis longtemps que les astrophysiciens savent depuis longtemps que l'univers se structure et c'est pas en désaccord avec la physique. Hein. C'est juste que la façon de considérer le problème, c'était de considérer considérer des systèmes qu'on appelle dissipatifs, qui perdent leur lumière, et donc dès lors qu'ils sont dissipatifs, ils ne respectent pas le second principe de la thermodynamique, parce que c'est ce qu'on appelle les systèmes ouverts, voilà, pour dire en deux mots. Moi, ce que je dis, c'est un petit peu différent, c'est juste qu'en fait, c'est pas des systèmes ouverts, on peut considérer ça globalement, et si on calcule l'entropie associée à la lumière de la manière statistique de Boltzmann, je suis un peu technique, mais bon, l'entropie augmente en augmentant le nombre de particules de lumière. Je vais juste vous donner une référence. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jeremy Englund, c'est un biophysicien du MIT, et qui a même écrit un article, qui a fait un peu de bruit d'ailleurs à l'époque, dans lequel il montre que lorsque l'ADN se duplique, C'est donc de l'écriture d'informations. L'entropie augmente, mais l'entropie augmente non pas par la créature de la, pas dans l'ADN. L'ADN, c'est de la, entre guillemets, de la négentropie, c'est de l'information. Mais par contre, parce qu'il y a tellement de lumière qui est rayonnée lors du processus d'écriture de l'ADN, que ça crée de l'entropie sous la forme de lumière. Donc l'entropie, c'est, là, elle est créée sous la forme de lumière. Si vous organisez, si vous prenez la matière et vous la mettez ensemble, vous la structurez, si vous ne prenez pas en compte la lumière, vous diminuez l'entropie. Mais bon, c'est vrai.
Et bonsoir et merci pour la conférence. J'ai une question générale sur la lumière, sa vitesse, sa propagation. À certains moments, vous avez dit que plus on voit loin, plus on voit dans le passé. Si on se réfère à la théorie du Big Bang, il y a eu un moment où il y a eu un univers chaud, dense. Il y avait toute cette matière qui peuple l'univers. Et donc les galaxies qu'on observe, très lointaines, à un certain moment de l'histoire de l'univers, elles étaient proches de notre galaxie, de notre système solaire, en fait, de la matière qui forme tout ce qu'on observe aujourd'hui de là où on est. Est-ce que ça veut dire qu'à un certain moment, l'expansion, alors on l'appelle inflation ou de l'univers, est-ce qu'elle a été supraluminique? Parce que la vitesse de la lumière, elle est finie.
C'est pas seulement à l'époque, c'est maintenant. L'univers s'étend plus vite que la lumière et c'est pour ça qu'il perd la mémoire, pour faciliter le problème. Donc, l'inflation, on est en train de vivre une deuxième phase d'inflation. Le fait que l'espace s'étende plus vite que la lumière, c'est pas un problème en fait. Dans la théorie d'Einstein, vous n'avez pas le droit de vous déplacer dans l'espace plus vite que la lumière. Mais le fait que l'espace s'étende plus vite... chaque morceau d'espace... Voilà, si vous prenez une règle de 3 millions d'années-lumière, petite règle. Donc une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Vous prenez une règle qui fait 3 millions d'années-lumière. Chaque seconde, elle grandit de 70 kilomètres. Chaque seconde a grandi 70 km. Donc, en une seconde, paf, 70 km de plus. D'accord. Ça, c'est pour une règle. Mais en fait, maintenant, j'en regarde 10. Chacune grandit de 70 km à chaque seconde. Toc. Mais du fait que j'en regarde 10, ben, en fait, de là où je suis, j'ai l'impression que ce truc-là s'éloigne à 10 fois 70 km. Donc, ça fait 700. Mais j'aurais pu prendre pas 10 règles, j'aurais pu prendre 10 000 règles. Et à ce moment-là, vous allez avoir une vitesse... qui peut être... Donc, en pratique, si vous faites le calcul, vous allez vous apercevoir que l'univers s'étend aujourd'hui, quand il est dans une phase d'inflation, ce qui s'est passé, il y a eu l'inflation primordiale au début de l'histoire de l'univers pendant une fraction de seconde et où, effectivement, il y a une expansion qui était plus vite que la lumière. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle un horizon des événements, c'est-à-dire qu'il y a une limite au-delà de laquelle, hein, si un événement se produit, par exemple une supernova qui explose, ben, si vous attendez pendant des milliards et des milliards d'années, vous ne verrez jamais sa lumière. Donc cet horizon des événements, donc il y a l'horizon, le fond diffus cosmologique, ça c'est ce qu'on appelle l'horizon des particules, c'est celui qu'on a vu avec les petits grumeaux rouges et bleus, il est là. Mais plus près de nous, là, du fait de l'expansion qui accélère dans l'univers, il y a un horizon qu'on appelle l'horizon des événements, et donc ce qui est au-delà, vous ne le verrez plus jamais. Et ce truc-là se rapproche de nous. Dans un lointain futur, il sera tellement près de nous qu'on ne pourra plus jamais voir l'histoire de l'univers. On ne pourra plus voir les autres galaxies. Donc, c'est-à-dire qu'on vit une époque particulière où lorsqu'on regarde loin dans l'univers, on peut voir le passé et reconstruire l'histoire de l'univers. On ne pourra plus dans le lointain passé. Du fait que l'expansion va très 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 vite. Et donc, effectivement, c'est ça aujourd'hui ce qui se passe au niveau de l'inflation et de ce qu'on appelle l'expansion accélérée de l'univers. Et là, mais c'est pas, ça ne viole pas la loi de. Ça viole pas la physique, ce phénomène d'inflation.
Alors, il y a quelques questions qu'on va quand même prendre sur le chat, parce qu'il ne faut pas uniquement privilégier ceux qui sont là. Alors, il y a une question d'abord. Ces considérations éclairent-elles ce que l'on peut prédire sur le futur, entre parenthèses, mort de l'univers, Big Rip, Big Crunch, Big Freeze.
Alors, donc ça, c'est toujours été une des questions que les gens se posaient. Au moment où on a, d'ailleurs, au moment où la thermodynamique a été inventée, les gens parlaient de mort froide de l'univers, parce qu'à terme, on irait vers justement l'augmentation d'entropie. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que même les trous noirs se transforment en lumière, puisqu'ils s'évaporent, ils finissent par exploser, etc. Et donc, si on voulait dire quel est le destin de l'univers, il faudrait qu'on connaisse la nature de ce qui provoque l'expansion qui accélère de l'univers, qu'on appelle, à défaut d'avoir un autre nom, on appelle ça de l'énergie noire. Et l'objectif du satellite Euclide dont on a parlé tout à l'heure, qui devrait normalement être lancé en juillet 2023, c'est d'essayer d'avancer dans la compréhension de la nature de cette énergie noire. Selon la nature de cette énergie noire, le futur sera de tel ou tel ordre. Mais c'est vraiment incertain. Il y a un type qui s'appelle Penrose, qui a eu un truc qu'on appelle le prix Nobel. Il dit la chose suivante, ça engage que Penrose, il dit « L'univers tend vers plus de lumière, à tel point qu'à la fin, ça sera que de la lumière. Or, au début, c'était que de l'énergie pure, donc la fin est comme le début, c'est un renouveau. » C'est Penrose. Moi, je ne suis pas capable de comprendre ce qu'écrit Penrose. J'écoute ce qu'il dit, mais il est dans les théories que certains considèrent possible que ce ne soit pas nécessairement la mort froide de l'univers, que ce soit peut-être même un renouveau. Il y a un autre physicien qui a dit une chose vachement intéressante. C'était, je ne me rappelle plus son nom, il a dit « Imaginez que vous soyez un être microscopique » qui vivrait au moment de la première inflation de l'univers, au moment où il a gonflé très très vite. Donc il a gonflé un certain... Chaque distance a été multipliée par un facteur 2 plusieurs fois. C'est ça l'inflation, ça a été multiplié par un facteur 2 plusieurs fois. Eh bien, aujourd'hui, nous, la nouvelle inflation, on n'en est même pas à une fois un facteur 2. Depuis que l'univers accélère, depuis il y a 6 milliards d'années, on n'a pas encore fait un facteur 2. Donc on est au tout début de ce truc-là. Mais imaginez un être microscopique qui vivrait avant qu'on ait fait complètement un facteur 2 de la première inflation. Il se dirait, l'univers va mourir. Il se dirait, c'est un truc qui va gonfler de façon infinie comme ça, ça ne va jamais s'arrêter, ça va tout disloquer, c'est la fin du monde. Il ne saurait pas qu'au bout de quelques cycles, ça engendrait de la matière, ça, etc., et ça a fait l'univers qu'on connaît. Nous, on est ces êtres microscopiques-là, dans un truc qui vient de commencer, et donc on a effectivement envie de dire... Quel sera l'avenir? Parce que c'est de là qu'est née la science, en fait. Elle est née d'essayer de prédire l'avenir. Si je lance une bille, je vais essayer de prévenir où est-ce qu'elle va tomber. Si je lance un missile, est-ce qu'il tombe sur la Russie ou l'Ukraine? Enfin, c'est des trucs, on s'amuse. Et voilà, mais en réalité, on ne sait pas.
Alors, une autre question. Tel un des jumeaux de Langevin se déplaçant vite dans l'univers, comment sait-on que le Big Bang s'est produit il y a 13 milliards d'années et en une fraction de seconde?
En fait, il y a la durée, 13 milliards d'années, 13,8 milliards d'années, ça c'est parce qu'on peut remonter le film à l'envers pour savoir qu'il y a une époque où tout était concentré. Par contre, on n'a pas de théorie du Big Bang. On n'a pas de théorie du Big Bang, on n'a pas même l'inflation dont on parle, c'est une théorie qui n'est pas complètement prouvée. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être sûr qu'il y a eu une inflation, on ne peut pas être sûr de ce que c'est que le Big Bang, on sait juste qu'il y a une expansion, etc. Et il y a des tas de théories qui sont proposées pour expliquer l'origine de tout ça, mais on ne peut pas être sûr d'une théorie du Big Bang, tout simplement parce qu'on n'en a pas, en fait. Enfin, moi, je n'en connais pas. Donc,
on n'en a pas ou on en a mille.
On en a tellement qu'on n'en a pas, quoi. Donc on ne peut pas en être sûr.
Bon, dernière question sur le chat, peut-être. Expérience de pensée, puisqu'on parlait d'expérience de pensée tout à l'heure, uniquement. Que donnerait dans les modélisations une entropie opposée à celle de notre univers, c'est-à-dire où l'ordre s'accroît avec le temps?
Ce qui est quand même malheureux, c'est qu'il est rare d'avoir une idée folle qui n'a pas déjà été eue. C'est ça qui est dingue. Hein. Bon, ça existe. Il y a une théorie comme ça... Il y a eu des travaux de Sakharov sur ça et sur la possibilité qu'il y ait une flèche du temps qui soit inversée, qui ait un univers. Bon, ça existe des théories comme ça. Et qu'est-ce que ça donnerait? Je ne sais pas.
Une dernière question dans la salle, peut-être?
D'abord, merci pour cet exposé. J'aimerais vous soumettre deux idées, l'éléphant et la théorie d'Einstein, donc les photons. Donc pour moi, je trouve que ça trompe l'éléphant.
Énormément.
Parce que moi, je pense plutôt au chat. Et du coup, avec ces histoires de fonte de Young et cette contradiction, enfin peut-être pas une contradiction, mais en tout cas une mise à l'épreuve d'Einstein sur la notion de photon. Et donc voilà, je voudrais savoir quel est votre point de vue, parce que vous avez dit que la lumière structurait les choses, mais dans l'infiniment petit, c'est pas une particule, l'onde, le photon, c'est une dualité. Et donc, du coup, comment cette structure elle peut exister aussi à l'infiniment petit, quoi ?
Bah, en fait, il n'y a pas que la lumière qui est mystérieuse. Un électron, dans l'infiniment petit, un électron, on ne sait pas ce que c'est. Je veux dire, c'est ça le principe, on appelle ça le principe d'incertitude, c'est le principe d'indétermination, mais il n'est pas déterminé. Selon l'expérience qu'on fait, il va se comporter comme une onde ou un corpuscule, mais le prix Nobel d'Alain Aspect, c'est aussi ça, c'est de montrer que, je touche une particule ici, ça affecte une autre à distance. Quand vous parliez du chat, vous vouliez parler du chat de Schrödinger, c'est ça ? L'histoire du chat de Schrödinger, de nouveau, je vais citer Penrose, mais... Il y a quelque chose qui... Alors, je sais que ça ne résout pas tout ce que je vais dire là, mais enfin, pour moi, ça résout quand même beaucoup de choses. C'est parce que pendant longtemps, les physiciens se sont demandé est-ce que c'était l'esprit de l'observateur qui influençait l'expérience. Parce qu'on se disait, voilà, si je fais une expérience comme ça, ça se comporte comme ça. Ça a l'air d'être... Quand on observe la matière, elle se comporte d'une certaine manière. Donc, on s'est dit, qui est-ce qui observe ? C'est l'observateur. Et qu'est-ce qui distingue l'observateur de l'expérience, c'est un être qui pense. Alors on s'est dit, c'est peut-être la pensée de l'observateur, peut-être son esprit, etc. Et il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, même par des physiciens, qui se disent, ils se sont posés ces questions-là. Et on a le droit de se poser toutes les questions, en physique, on se pose toutes les questions, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y a un mécanisme physique qui a été découvert, qu'on appelle la décohérence. Et ce mécanisme physique, il dit simplement que lorsqu'une particule est libre, elle est dans un état indéterminé, et donc on ne peut pas l'exprimer, on n'a pas de... C'est Werner Heisenberg qui disait que le langage ordinaire est incapable de décrire le profond mystère des particules élémentaires, mais on ne sait même pas mathématiques, on va définir une fonction de probabilité pour définir... Bon, mais dès lors qu'elle rentre dans le système expérimental, elle est contrainte par l'ensemble, la myriade d'autres particules à prendre un état. En fait, et ça c'est génial, c'est parce que nous on se dit, c'est soit... 0 ou 1, soit c'est onde ou corpuscule, ou soit c'est le spin vers le haut, vers le bas, etc. En réalité, ce qui a été démontré, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une matrice densité qui définit la densité de probabilité d'avoir tel et tel état, et qui en mathématiques, c'est quand elle va être, on appelle ça diagonalisée, quand elle arrive, tous les autres termes deviennent à zéro, elle prend un état. Mais en fait, elle a toute une continuité d'états. En fait, c'est-à-dire que c'est pas 0 ou 1, ça passe par tous les états dans un état de façon continue. C'est comme si vous étiez en voiture, vous pouvez prendre l'autoroute, vous pouvez aller où vous voulez, mais tout d'un coup, il y a un bouchon. Et puis, il y a des gens partout. Vous ne pouvez plus bouger, vous êtes contraint. C'est ça, la décohérence. Et donc, quelqu'un arrive, il dit, depuis que j'ai observé ce type-là, il ne bouge plus. Oui, mais enfin, il y a un bouchon quand même. Et donc, en fait, à chaque fois que vous faites l'expérience, il y a une drôle de coïncidence, c'est que la particule qui est microscopique, elle est confrontée à un système macroscopique et qui fait... par ces interactions-là, qui va la contraindre à prendre un état. Et donc, le chat de Schrödinger, personnellement, cette expérience, elle ne me parle pas du tout. Je sais qu'on en parle beaucoup, mais moi, elle ne me parle pas du tout, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de l'observateur. C'est à partir du moment où il y a un système macroscopique, il réduit le paquet d'ondes, et si on enlevait tous les êtres humains et tous les êtres qui pensent sur la Terre, eh ben, le chat de Schrödinger, il serait soit mort, soit vivant, mais ça serait fait de façon définitive par le système macroscopique. Et donc, il n'y a pas de mystère. Il y a juste... il n'y a pas de mystère. Il y a un mystère insondable qui est la nature profonde, que ce soit une particule lumière ou une particule matière, et ça, on est... Mais après, il n'y a pas de mystère du chat de Schrödinger, dans le sens où, pour moi... et puis du coup, je m'appuie sur Penrose, parce qu'il lui le dit, du coup, comme lui... C'est du fait de cette décohérence, voilà. Donc ça a beaucoup changé. Je pense que c'est important de le savoir, c'est un mécanisme qui est important, un mécanique quantique, qui n'a pas été beaucoup dit, mais en fait, qui change quand même pas mal les choses.
Oui, je voulais juste revenir, parce que je suis un peu troublé par ce que vous avez dit, que l'univers de... s'agrandit plus vite que la vitesse de la lumière. Et que donc, la façon dont on va pouvoir voir les choses va se rétrécir de plus en plus. Est-ce qu'on a une preuve du fait que cet univers a une inflation plus grande que la vitesse de la lumière? Est-ce qu'on a une preuve quelconque de ça?
En fait, les preuves qu'on a, c'est que... Alors, c'est un petit peu plus compliqué que d'aller plus vite que la lumière, c'est qu'en fait, parce que c'est le fait qu'il accélère qui fait en plus qu'il y a cet horizon des événements. Mais je ne rentre pas là-dedans. Mais les vitesses des galaxies, on les mesure tous les jours, en fait, avec nos télescopes. Donc, il y a des corrections relativistes, c'est-à-dire qu'il y a un petit calcul à faire, mais donc on le mesure tous les jours, ça. Alors après, on peut toujours se dire que tout ce qu'on fait, quand on interprète nos observations, que ce soit des images et des spectres, ça repose sur une théorie. D'accord ? Tout ce qu'on fait repose sur une théorie. Quand on parlait des petits grumeaux rouges et bleus, etc., j'ai dit qu'il faut de la matière noire, il y a tout un ensemble de choses, il y a tout un cadre théorique. Et si jamais il y a une faille dans notre théorie, à tel ou tel endroit, il y a des gens qui disent on pourrait très bien dire que le décalage vers le rouge, c'est pas parce que c'est pas une vitesse d'expansion, etc., mais c'est que, il y a eu un moment donné, on disait le photon se fatigue. Pourquoi pas? Non, mais il peut, pourquoi pas? Il faut... Puis après, on se dit, si c'était vrai, je verrais tel ou tel truc. Est-ce que je le vois? Non. Donc, je reste sur ma théorie que c'est la vitesse. Donc aujourd'hui, notre cadre théorique, il fonctionne bien. Et il fonctionne bien parce qu'il, pour l'instant, il explique vraiment quand même pas mal de choses.
J'ai bien compris, ça veut dire qu'on voit des décalages vers le rouge de galaxies qui correspondent à des vitesses plus grandes que celles de la lumière?
Oui. Enfin, c'est ce qu'on appelle les vitesses apparentes, mais après on peut mesurer le taux d'expansion de l'univers et donc calculer cet horizon des événements et calculer tout ce que je vous dis là. Oui.
Est-ce qu'on pourrait pas dire seulement...
Attendez, monsieur, si vous n'avez pas le micro, on ne vous entend pas.
Non, est-ce qu'on pourrait pas dire tout simplement que la vitesse de la lumière est la vitesse maximale dans l'univers, dans l'espace-temps? Et que l'espace-temps lui-même n'a pas de vitesse particulière, il va à une vitesse qui peut être supérieure à 300 000 km/s.
C'est-à-dire qu'en fait, oui, mais d'une certaine manière, ce qu'il y a, c'est qu'on est, en train de... on parle d'une vitesse apparente, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, chaque morceau d'espace s'étend, et donc il va... Et on n'est pas en train de dire qu'un mètre d'espace s'étend à 300 000, à 1 million de kilomètres par seconde. Donc, effectivement, on parle de l'expansion, on parle de la vitesse, du taux, de taux d'expansion, donc de l'espace-temps. Et quand on parle d'une vitesse limite, c'est dans ce référentiel qu'est l'espace-temps. Donc, on a un référentiel qui est une grille qui est l'espace-temps, qui lui-même s'étend. Et dans cette grille-là, vous avez une contrainte qui est que les objets, quand ils se déplacent, ne peuvent pas dépasser une vitesse limite. Bon, et après, vous avez des... C'est des équations qui vous permettent de savoir, parce que vous pouvez avoir quelque chose qui se déplace. J'ai eu la discussion justement avec des collègues, parce qu'en fait, si l'univers n'était pas en expansion accélérée, il n'y aurait pas d'horizon des événements. Donc c'est pas juste le fait que ça va plus vite que la lumière, parce que ça pourrait aller plus vite que la lumière sans avoir d'expansion accélérée. C'est un petit peu compliqué. En fait, on le comprend que quand on fait le calcul, mais c'est pas intuitif, c'est pas vraiment intuitif ce truc. Maintenant, est-ce qu'on en a la preuve qu'il y a des vitesses qui sont très rapides, des vitesses apparentes de récession des galaxies? Oui, on les mesure tous les jours. Et donc c'est dans ce cadre théorique que c'est ça. Voilà, pour l'instant c'est... Mais c'est pas un souci ça. C'est un souci psychologique, mais alors si vous voulez des soucis psychologiques, vous pouvez en avoir plein. Est-ce que l'univers est infini ou pas infini? Ça, on n'en sait rien. Qu'est-ce que c'est que la nature des particules élémentaires? On n'en sait rien. Qu'est-ce qui est à l'origine du Big Bang? On n'en sait rien. Qu'est-ce que la matière noire? On n'en sait rien. Qu'est-ce que l'énergie noire? On n'en sait rien. Non, si vous voulez des soucis psychologiques, ça, nous, on en a une liste.
Ouais. David, pour t'aider à conclure et pour revenir sur ton défi initial... Tu nous as un peu expliqué qu'il y avait plein de choses qu'on découvrait. Et à un moment, j'ai presque eu l'impression que tu nous disais c'est évident, quoi, je suis en train de dire des choses très banales, c'est peut-être pas la peine de faire des études pour faire ça. Je te cite un peu approximativement. Mais en gros, il y a un changement de paradigme, tu nous as expliqué tout ça. Où est l'éléphant dans la pièce?
Qu'est-ce que tu veux dire par où est l'éléphant dans la pièce?
Qu'est-ce qui est là et qu'on refusait de voir? Et qui est là depuis longtemps?
Alors, l'éléphant dans la pièce, moi je dirais, il y a deux éléphants.
Il n'y en a qu'un.
Tu n'en vois qu'un?
Ah oui.
Vous êtes d'accord qu'il y en a deux? Elle n'en voit qu'un? C'est une question de point de vue. Vous êtes dans un certain référentiel, je suis dans un autre. Allez me prouver que j'ai tort. Donc, il y a deux éléphants. Le premier, c'est que... Pourquoi, là, j'avais écrit « La plus belle ruse de la lumière », c'est parce que Baudelaire a dit « N'oubliez jamais que la plus belle ruse du diable, c'est vous faire croire qu'il n'existe pas ». Et donc, jusqu'à présent, on n'a pas pris en compte le fait que c'était la lumière qui sculptait les formes dans l'univers. Pour moi, ça, c'est l'éléphant dans la salle. C'est-à-dire qu'on raconte l'histoire de l'univers comme si c'était une histoire qui était dominée par la gravité, avec la matière et la gravité, et que la lumière, bon, finalement, c'est ce qui nous raconte l'histoire, et puis il se trouve qu'il y a des choses qui sont rayonnées, bon, c'est un peu de lumière. En réalité, c'est elle qui fait tout. Elle est le rodin de l'ustère de l'univers, c'est-à-dire qu'en fait, elle sculpte, c'est elle qui fait toutes les formes. Tout vient de cette... Voilà. Et elle respecte ce principe de croissance en entropie. Ça, pour moi, c'est l'éléphant dans la pièce. Et après, si je devais dire un deuxième éléphant, c'est le fait que tout est interconnecté, c'est-à-dire qu'en fait, on voit les galaxies comme étant des objets isolés qui flottent dans l'espace, et en fait, elles sont toutes nourries en permanence par de la matière. Le seul petit problème, mais ça c'est un détail, vous allez me dire, oh, ça c'est un détail, c'est qu'on ne les a jamais vues. Et qu'on a des petits indices observationnels, mais ce n'est pas complètement satisfaisant. Pour l'instant, ils sont dans les ordinateurs. Donc, bon, c'est un petit peu gênant. Mais à part ce détail, ça fait un deuxième éléphant. Voilà.
Eh bien, j'espère que les éléphants ne vont pas vous empêcher de dormir. Merci beaucoup, David. Merci d'être venus si nombreux et rendez-vous l'année prochaine. Et d'ici là, bonne fête de fin d'année.